quand les dieux rôdaient sur la terre. Il y a très longtemps en Grèce. Pour devenir Zeus, le roi de tous les dieux, il ne fallait pas être n'importe qui. Ce n'était pas facile. Il fallait beaucoup de force et beaucoup de ruse pour parvenir à détrôner définitivement son père, Cronos. Un dieu lui-même terriblement fort et rusé. Et, une fois le père détrôné, il fallait beaucoup d'habileté pour éviter qu'un fils trop puissant et insolent ne vienne vous détrôner à votre tour. Pour être Zeus, le chef, le patron, il fallait régner sur beaucoup de grandes personnalités divines, à l'ego surdimensionné, frères et sœurs, mais aussi filles et fils, sans compter les neveux et les nièces et tous les autres, toujours prêts à se rebeller, à se quereller entre eux.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Comme nous le craignons, Acrisios, le roi d'Argos, a abandonné Danaé et son enfant sur les flots.
Il sera sévèrement puni.
Acrisios a toujours honoré les dieux de l'Olympe dans le passé. Il a fait bâtir de nombreux temples grandioses qu'il t'a consacrés. Grand Zeus, père des dieux.
Cent actions généreuses ne rachèteront pas un meurtre qui m'atteint. Écoute, Poséidon, je t'ordonne de déchaîner les vents et les flots.
Les ordres seront exécutés.
Être le dieu suprême dans une religion polythéiste qui reconnaît et célèbre une multitude de divinités, ce n'est pas simple. Il faut gérer, il faut faire de la politique. Au moins, le dieu d'une religion monothéiste est tranquille. Il n'a pas de rivaux. Ce sont seulement ses porte-paroles humains qui se battent entre eux. Lui, il n'y est pour rien. Comment Zeus a-t-il fait pour devenir Zeus? Comment a-t-il pu gagner, et une fois vainqueur, comment a-t-il pu durer en maître de l'Olympe? Nous verrons cela en deux épisodes. La prise du pouvoir par Zeus, elle a été ultra-violente. Puis le gouvernement de Zeus, qui est censé durer encore aujourd'hui. Zeus, le conquérant. Puis Zeus, le patron.
Qu'advient-il de mon fils, Calibos?
Ses crimes sont impardonnables.
Non, je t'en prie, Zeus, fais preuve de clémence.
Pour prendre le pouvoir, il faut d'abord exister, c'est requis. Pour cela, il faut naître, c'est encore requis. Une naissance est toujours très complexe pour les dieux. Il y a beaucoup d'obstacles à vaincre, des jalousies, des rancœurs. Les dieux qui sont déjà là ne cèdent pas facilement la place, c'est bien connu. Par sa naissance, Zeus appartenait à la famille la plus noble qui soit. Mais sa naissance a failli mal tourner. Zeus était l'un des fils de Cronos, le maître du monde, et de Rhea, sœur et épouse de Cronos. Ses deux parents, Cronos et Rhea, étaient quant à eux les enfants de Terre, Gaïa, une divinité originaire, primordiale, et de Ciel, Uranos. Cette famille des maîtres du monde était bizarre. Les pères, Cronos et avant lui, Ciel, faisaient beaucoup d'enfants, mais ils ne voulaient surtout pas avoir d'enfants, et cela de père en fils, sur deux générations. Faire des enfants était un signe de puissance, de fécondité, mais avoir des enfants autour de soi, à l'air libre, était, comme nous le savons toutes et tous, une menace. L'un d'entre eux pouvait être plus malin que vous, devenir plus fort et prendre votre place. Les pères, Cronos et avant lui, Ciel, étaient effrayés à l'idée d'avoir des enfants. Mais ils faisaient tout pour en avoir. Cela mettait les mères en colère. Rhea, la mère de Zeus et avant elle, Terre, la mère de Cronos et de Rhea. Elles portaient des enfants dans leur corps, mais leurs époux divins interdisaient à ces enfants de voir le jour. Les mères devaient ruser pour devenir mères et mettre au monde normalement leurs filles et leurs fils. Finalement, Terre et Rhea vont réussir, aux dépens de leur pauvre mari bien déconfit. Chaque mère trouvera le moyen de faire naître ses enfants, et chaque fois, le père sera chassé par les enfants. L'histoire divine des débuts du monde n'est pas seulement mâle et puissante, elle est surtout portée par des ruses féminines. Reprenons l'histoire des grands-parents et des parents de Zeus. Au tout début, il y a Gaïa, la terre, qui n'a ni père ni mère, mais qui est née spontanément comme ça, juste après une autre divinité, le chaos, chaos, qui lui aussi est né, le premier, comme ça, sans dépendre de personne. C'est le début absolu, le Big Bang. Il nous faudra, un autre jour, raconter cette histoire des tout premiers dieux et des tout débuts du monde. C'est une histoire complexe, très élaborée. Elle a été racontée et peut-être inventée par un poète de la fin du 8e siècle ou du début du 7e siècle avant notre ère, Hésiode, dans son poème sur la naissance des dieux, la Théogonie. En fait, c'est une construction personnelle et non pas un mythe partagé par tout le monde. Hésiode donnait sa propre vision de l'histoire des dieux. Il y en avait beaucoup d'autres, avec d'autres généalogies, d'autres divinités primordiales. Mais pour cette époque, celle d'Hésiode est la seule que nous connaissions. Terre, Gaïa, la grand-mère de Zeus, a un époux ciel, Uranos. C'est son fils. Elle l'a engendré toute seule. Il avait exactement sa taille et la couvrait en tout lieu. En plus de ciel, et toujours toute seule, sans amour, Terre engendra les montagnes et leurs habitantes, les nymphes, ainsi que la haute mer, Pontos, et ses vagues furieuses. Les régions du monde, Terre, ciel, mer, étaient ainsi clairement posées dès le début. L'histoire pouvait commencer, elle avait son cadre. Les conflits n'allaient pas tarder.
Jean-Pierre Vernant.
Gaïa, la Terre. La Terre est un espace solide, compact, et sur lequel on peut marcher. C'est un plancher. Le monde a un plancher. Et elle se prolonge vers le haut par des montagnes, et elle se prolonge vers le bas, en quelque sorte dans le chaos d'où elle est issue, par une sorte de racine infernale, nocturne. Dans son fond, c'est la terre noire, c'est la terre nocturne, c'est la terre qui sera celle où sont emprisonnés les morts.
Terre couche avec son fils, le ciel, Uranos. Elle a une première série d'enfants, ceux qui seront plus tard appelés les titans.
Couchant avec ciel, elle mit au monde Océan et ses profonds tourbillons, Écoios, Créios, Hyperion, Japet, Théia, Rhea, Thémis, Mémoire, Phoïbé couronnée d'or, Tétis la désirée. Après eux, est né le plus jeune, Cronos au projet crochu, le plus effrayant des enfants. Il haïssait son père en pleine vigueur.
Cronos, le futur père de Zeus, le Saturne des Latins, est le dernier né. Mais, paradoxe, c'est lui qui prendra la place de son père, le ciel. Terre avec ciel, mais aussi au monde les trois cyclopes, ces forgerons qui fabriquent la foudre. Ils n'ont rien à voir avec le cyclope rencontré par Ulysse. Les cyclopes sont des monstres. Ils n'ont qu'un seul œil au milieu du front. Il arrive souvent que les forgerons soient difformes, mutilés, comme l'était aussi le dieu Héphaïstos, l'orfèvre estropié des deux jambes. Maître du feu, les forgerons donnent au métal la forme qu'ils veulent et le payent par une difformité. Pour les cyclopes, peut-être y a-t-il un rapport entre leur travail, forger la foudre, et cette bizarrerie physique, n'avoir qu'un seul œil. Pour les Grecs anciens, l'œil fonctionne comme organe de la vision parce qu'il est plein de feu. Il émet un rayon lumineux vers le dehors. C'est grâce à cela qu'il peut percevoir la lumière extérieure, le feu qui règne sur les choses. La foudre est du feu ciblé, précis, comme un laser. L'œil unique signale peut-être cette concentration du feu. Terre engendre avec ciel encore trois grosses brutes, dont le corps ne connaît pas le manque, comme les cyclopes et leur œil unique, mais à l'inverse, l'excès. Ils ont chacun 100 bras et 50 têtes. Chacun vaut une armée.
De leurs épaules s'échappaient 100 mains privées de forme. Et pour chacun, 50 têtes poussaient de leurs épaules sur leurs membres tassés. Une force immense et puissante habitait leur grande apparence.
Cette génération des enfants de terre et de ciel ne voit pas facilement le jour. Elle a failli ne pas naître. Ciel ne veut pas que ses enfants sortent de l'ombre maternelle. Il les enfouit dans des caches de la terre. Celle-ci, furieuse, imagine une ruse et propose à ses enfants de châtrer leur père pour qu'ils se retirent définitivement et laissent place à la vie, aux jeunes générations. C'est le dernier-né, Cronos, qui accepte. Une nuit, alors que son père s'approche de Gaïa, la terre, Cronos, qui était à l'affût, châtre son père. Le ciel s'éloigne pour toujours de la terre, on respire. Cronos, le libérateur, prend la place de souverain. Nous avons déjà raconté cette histoire sanglante en évoquant Aphrodite et sa naissance. Le sang de la blessure de ciel tombe et féconde la déesse Terre, qui engendre des divinités redoutables. Les Erinni, déesses de la vengeance, les géants belliqueux et des nymphes des forêts, qui portent un nom de guerre, celui de l'arbre, le frêne, qui sert à fabriquer les lances. Quant au sexe coupé du dieu ciel, Cronos le lance dans la mer. Le sperme, qui en sort, se mêle à l'écume des vagues, prend une forme et donne naissance à Aphrodite, la déesse de l'amour. Après cet acte de vaillance, Cronos, le grand castrateur, gouverne. Mais il n'est pas bon. Son gouvernement est bancal, incomplet. Cronos doit le premier faire de la politique, puisqu'il n'est pas seul et a des frères et des sœurs. Il distribue aux dieux leurs fonctions, mais il néglige certains d'entre eux et oublie de leur faire honneur. Il oublie même de libérer les cyclopes, les artisans de la foudre, ainsi que les dieux aux 100 bras. Il les laisse enfermés. Son père, Ciel, les avait mis dans les ténèbres où ces monstres souffraient parce qu'il avait peur d'eux. Peut-être que son fils Cronos éprouve la même peur. Ou peut-être, pense-t-il, que lui, au pouvoir, tout conflit est écarté, en tout cas. Cronos laisse les cyclopes et les dieux aux 100 bras croupir dans l'ombre. Il oublie aussi d'honorer l'aînée des filles du dieu Océan, son frère, la redoutable Styx, déesse infernale, dont la maison est tout au fond de la terre. Cette déesse mystérieuse avait des enfants pourtant bien utiles en cas de conflit. Ses enfants portent des noms très clairs. Émulation, victoire, supériorité, force. Cronos ne leur rend pas hommage, ni à eux, ni à leur mère. Cronos néglige ses dieux parce qu'il pense qu'il est déjà tout cela. La force, la victoire, la violence. Il n'a pas besoin d'eux. Il croit qu'il peut tout contrôler tout seul s'il est vigilant. Il croit que son regard peut maîtriser le monde. Grave erreur. Ces dieux négligés vont lui échapper. Son gouvernement n'est pas solide, contrairement à ce qu'il pensait. Cela se voit clairement avec la manière dont il traite sa progéniture, la génération de Zeus. Il commet exactement la même erreur que son père Ciel. Il fait des enfants, beaucoup, mais il refuse qu'ils voient le jour.
Lucien Gerfagnon.
Cronos qui dévore ses enfants parce qu'il craint d'en être détrôné. Alors, même on a beau être divin, on n'en est pas moins homme. Et ça a permis d'ailleurs une utilisation de ce mythe. On a pris le mot de Cronos, mais en le changeant d'initial, c'est devenu Cronos avec un K, si vous voulez, en français, où on est devenu Cronos, C-H-R-O, qui veut dire le temps, d'où chronomètre, le temps. C'est à ce moment-là, le temps mange tous ceux qui sortent précisément de lui, donc le temps mange ses enfants. Et c'était bien pratique avec les deux mots qui pouvaient suggérer soit le méchant papa qui boulottait ses enfants, soit le temps dont on a tant de mal à parler.
Cronos épouse sa sœur Rhea, elle conçoit 6 enfants.
Rhea, soumise par Cronos, mit au monde des enfants éclatants. Hestia, Déméter et Héra aux sandales d'or, le puissant Hadès qui a sa maison sous la terre avec un cœur sans pitié, et Poséidon, dieu fracassant qui secoue la terre, et Zeus, l'intelligent, le père des dieux et des hommes. Son tonnerre agite la large terre.
Mais Cronos ne veut pas en entendre parler. Avec ses deux yeux, il surveille, il scrute. Lorsque l'enfant paraît, il l'avale.
Eux, le grand Cronos, les engloutissait, au moment où chacun, au sortir du ventre sacré de leur mère, parvenait à ses genoux. Il avait cette idée, qu'aucun descendant magnifique de ciel, sinon lui, ne détienne l'honneur royal parmi les immortels. Car il avait appris de terre et de ciel couverts d'astres que son destin était d'être soumis par un enfant à lui.
Cela marche 5 fois. Cronos avale 3 filles, Hestia, Déméter, Héra et 2 garçons, Hadès et Poséidon. Mais les choses changent au moment où le 6e et dernier, Zeus, doit naître. Rhea, la mère, a un immense chagrin. Elle veut à tout prix mettre au monde un enfant qui ne soit pas avalé. Elle demande conseil à sa mère, Terre, la rusée, et à son père, le ciel.
Rhea avait un deuil inoubliable. Mais quand Zeus, le père des enfants et des hommes, allait être mis au monde, à ce moment, elle supplia ses parents chéris, terre et ciel couverts d'astres. Elle leur demanda de méditer une ruse pour qu'elle mette au monde son fils chéri, sans se faire voir.
Ses parents l'écoutent. Ils envoient Rhea au loin dans l'île de Crète. Là, la déesse Terre recueille le nouveau-né, l'enfant Zeus. De nuit, Elle le cache dans une grotte de montagne inaccessible, une cachette de la terre sacrée. Chronos ne se rend compte de rien. Pour donner le change, Terre prend une pierre, l'enveloppe dans des langes et la donne à Chronos qui, naïf, l'avale. Il croit l'affaire réglée.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
En remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des falaises accrochées sur le vide, où la faune et la flore jouent avec les langueurs de la nuit qui s'étale, ivre de sa moiteur. En remontant le fleuve, où d'étranges présences invisibles nous guettent et murmurent en silence, où sale et fatigué, sous les ombres englouties, nous fixons les lueurs d'un faux jour qui s'enfuit. En remontant le fleuve, en remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des clameurs et des foules insipides, où nos corps épuisés sous la mousse espagnole ressemble au marbre usé, brisé des nécropoles, où nos tonniers des brumes dans l'odeur sulfureuse des moisissures, des pavaigres et marécageuses, nous conduisons nos âmes aux frontières du chaos, vers la clarté confuse de notre ultime écho. En remontant le fleuve, en remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des aveux de nos désirs avides, jusqu'au berceau final, sous les vanilles en fleurs, jusqu'à l'extrême arcane, jusqu'à l'ultime peur. En remontant le fleuve vers cette éternité, où les dieux s'encanaillent en nous voyant pleurer, où les striges en colère, au sourire arrogant, manipulent les rostres de notre inconscient. En remontant le fleuve, en remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des remous de nos sanglots stupides, où cruels et lugubres, au bout des répugnances, nous fuyons les brouillards gris de notre impuissance, vers les feux de nos doutes, jusqu'au dernier mensonge, dans la complexité sinistre de nos songes, où de furieux miroirs nous balancent en cadence la somptueuse noirceur de nos âmes en souffrance. En remontant le fleuve, en remontant, en remontant le fleuve.
Pierre Judet de Lacombe raconte la naissance de Zeus, le dieu des dieux.
Ô Zeus, le plus puissant des dieux, nous t'implorons, nous demandons ton aide. Zeus, grand Zeus, entends-nous, entends-nous, nous crions chez toi.
Ici Zeus, je suis absent pour l'instant, mais si vous me laissez un message, je vous rappellerai dès mon retour. Parlez après le bip sonore, merci.
Appelle dès que tu rentres, on a besoin d'aide.
En Crète, Zeus grandit. Le poète Hésiode ne nous dit rien sur son enfance, sur son adolescence dans les montagnes de Crète. Visiblement, ça ne l'intéresse pas. Pourtant, il y a eu de belles histoires qui sont anciennes, mais nous n'avons que des bribes ou des récits tardifs. On raconte, par exemple, que des jeunes gens armés sont accourus, ont dansé près du jeune Zeus en faisant du tintamarre avec leurs boucliers pour que Cronos n'entende pas les cris du bébé. On raconte aussi qu'un jour Cronos rôde dans les parages. Pour le tromper, Zeus se transforme en serpent et transforme ses nourrices, les nymphes, en ours. Ses formes d'un moment deviennent ensuite des étoiles, une fois que Zeus aura vaincu son père Cronos et pris le pouvoir. L'une des histoires les plus marquantes est celle de la corne d'abondance, la corne de la chèvre qui allaitait le tout jeune Zeus. La déesse terre Gaïa confie le bébé à une nymphe, la naïade Amalthée. Elle a une chèvre magnifique qui nourrit Zeus. Mais un jour, une des cornes de la chèvre se casse. Elle deviendra la corne d'abondance offerte au jeune dieu. Le poète latin Ovide nous raconte l'histoire. Zeus s'appelle alors Jupiter.
La naïade Amalthée, noble fille de Crète sur le mont Ida, avait, dit-on, caché Jupiter dans les bois. Elle possédait une merveille, la mère de deux chevreaux. Dans les troupeaux sur la montagne d'Icta, on la remarquait pour ses cornes hautes dans l'air et recourbées sur son dos, et pour sa mamelle, comme devait en avoir la nourrice de Jupiter. Elle lui donnait son lait. Mais contre un arbre, une corne se brisa. La beauté de la chèvre était amputée de moitié. La nymphe recueillit la corne, la couronna d'herbes neuves, la porta pleine de fruits aux lèvres de Jupiter. Et lui, quand il eut en main les affaires du ciel et occupé le trône de son père, quand rien ne fut plus grand que Jupiter l'invaincu, de la nourrice, de sa corne féconde, il fit des étoiles.
C'est l'un des mythes du Capricorne. La chèvre a eu un autre usage, guerrier cette fois. Dans une tradition très différente rapportée par le poète plus ou moins mythique Musée, on dit qu'elle n'était pas belle, mais monstrueuse, qu'elle a effrayé son père, le soleil, qui ne voulait plus la voir. Elle vivait cachée dans une grotte où elle a nourri Zeus. Le dieu a grandi. Il veut se venger de son père Cronos, mais constate qu'il n'a aucune arme pour lui faire la guerre. Un oracle lui dit alors qu'il avait en fait une vraie arme sous les yeux, la peau de la chèvre qui l'a nourri. Cette peau résiste à tous les coups et elle est terrifiante. Pour une raison que cette histoire ne précise pas, la chèvre porte sur son dos le visage monstrueux de la Gorgone. Zeus écorche sa chèvre nourricière et, généreux, il lui trouve une autre peau pour se couvrir les os, puis il la rend immortelle. La peau qu'il a recueillie s'appelle l'égide, en grec, la peau de la chèvre, aegis. Elle est invincible, effrayante. Elle aide Zeus à gagner de nombreuses batailles. Quand on dit maintenant qu'une action se fait sous l'égide, au sens de sous la protection de telle ou telle autorité officielle, peut-être qu'on oublie l'origine hideuse du mot. Décidé à se venger, Zeus va trouver son père Cronos. Certaines légendes disent qu'il le drogue avec du miel, le ligote, puis le châtre. C'est un peu exagéré et platement répétitif avec ce que Cronos a fait à son père, le ciel. Le poète Hésiode est plus sobre. Il nous dit plus simplement que Zeus invente un moyen de faire vomir Cronos. Hésiode ne nous dit pas lequel. Ce détail, visiblement, ne l'intéresse pas du tout. Une tradition nous dit que c'est la déesse intelligence, Métis, une fille d'océan, qui a fourni le vomitif. C'est tout à fait possible. Zeus fera de Métis sa première épouse. Cronos recrache un par un les 6 enfants qu'il a avalés, en commençant par le dernier englouti et en finissant par le premier. Attention, cela devient très subtil, et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris cette histoire. Le premier recraché devient le premier-né. L'estomac du dieu mâle, Cronos, est considéré comme une matrice, d'où on sort pour naître. Zeus a été le dernier conçu par sa mère Rhea. Mais Cronos recrache en premier la pierre, enveloppée de l'ange, que la déesse Terre lui avait donnée en lieu et place de Zeus. Les autres dieux suivent en ordre inverse. Zeus est considéré comme étant le premier à naître au monde, par sa pierre recrachée, alors qu'il a été enfanté le dernier par Rhea. Être à la fois le premier et le dernier est un privilège énorme. Il distingue Zeus de tous ses frères et sœurs. Cela veut dire que Zeus est tout, le début et la fin de la série divine, l'alpha et l'oméga. Il est la limite absolue, dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a rien au-delà de lui. Mais cette histoire n'est pas seulement d'ordre mathématique, avec un jeu entre la première et la dernière place. Elle contient une vraie bizarrerie qui, je l'avoue, m'a longtemps arrêté. Ce qui naît en premier, au sens où Cronos le recrache d'abord, ce n'est pas Zeus lui-même, mais la pierre qui l'a remplacé. Le vrai Zeus était né depuis longtemps en Crète. Or, cela n'empêche pas Zeus d'être considéré par ses frères et sœurs comme l'aîné, comme le premier-né, parce qu'il est le premier sorti du ventre de son père. Que Cronos se soit fait avoir avec la pierre, on comprend. Mais les autres, que manifestent-ils en acceptant de faire de Zeus leur aîné, alors qu'il est le cadet? Pourquoi tout le monde fait comme si la pierre vomie était vraiment Zeus? Zeus n'a jamais été recraché. Le mythe, comme d'habitude, se fait énigmatique. Il aime ça. Il oblige à se poser des questions. Cette fois, Hésiode lui-même nous donne un début d'éclaircissement. Toute cette histoire de premier et de dernier ne concerne pas seulement les dieux, qui pour nous sont invisibles, mais aussi les humains.
Le grand Cronos aux ruses crochues recracha sa progéniture. La technique et la force de son fils Zeus l'avaient vaincu. En premier, Cronos vomit la pierre, l'ayant engloutie la dernière. Cette pierre, Zeus la fixa sur la terre aux larges routes, à Delphes, la très divine, sous les vallons du Parnasse, afin qu'elle soit un signe pour l'avenir, une merveille pour les mortels qui meurent.
La pierre était donc destinée aux humains, qui n'ont pas de rapport direct avec les dieux, mais seulement avec des signes, des symboles sacrés, comme les sept pierres que Zeus leur offre. Pendant des siècles, la pierre recrachée pouvait se voir dans le temple d'Apollon, à Delphes. Couverte de bandelettes, elle était considérée comme le centre, le nombril du monde, le saint ombilique. Elle était le signe évident, tangible, du succès de la ruse divine et de la victoire définitive de Zeus. Les humains n'ont évidemment pas assisté au conflit entre Zeus et son père. Ils ne verront jamais Zeus. Mais la pierre était pour eux le signe bien visible, éternel et véridique de la supériorité du dieu et de sa domination sur l'ensemble du monde dont elle était le centre. Elle l'attestait. Pour nous, les humains, confinés sur terre, loin du ciel, le symbole prime, et les dieux le savent. Avec la pierre de Delphes, ils en ont offert un aux mortels, le plus solide de tous, le central, l'ombilique du monde. Et les dieux montrent par là aussi qu'ils ont de l'humour. Cette pierre sacrée déposée au centre du temple de Delphes et du monde, ce n'était au départ qu'un subterfuge, un leurre, destiné à tromper le dieu Cronos pour sauver le petit Zeus. Mais il reste que c'était du faux, un truc qui devint pour les Grecs l'un de leurs symboles les plus sacrés.
Les Grecs, est-ce qu'ils croyaient à leur mythe?
La réponse est oui, ils croyaient à leur mythe.
Jean-Pierre Vernant.
Parce que le noyau, ça n'est pas un credo qui n'existe pas. Le noyau, c'est quoi dans la religion grecque? C'est d'abord de rendre aux dieux un culte, les honneurs qu'ils méritent. Le Grec a le sentiment très profond qu'au-dessus de lui, il y a un univers de puissances qui sont à la fois immortelles, qui ne connaissent pas toutes les limitations de la condition humaine. Alors, il y a un sentiment de dette à l'égard du monde, oui, et spécialement des dieux.
Zeus profite de sa victoire pour libérer aussi les cyclopes et les dieux aux 100 bras que son père Cronos avait abandonnés dans leur prison ténébreuse. En échange, il reçoit la foudre et le tonnerre. Cela veut dire qu'une guerre se prépare. Mais pourquoi une guerre? Cronos n'a-t-il pas été vaincu? On nous dit que Zeus et ses frères et sœurs occupent l'Olympe, le lieu où siègent les dieux souverains. Que leur faut-il de plus ? En fait, les titans, les fils et filles de terre et de ciel n'ont pas été éliminés. Ils sont toujours là. Pour que le gouvernement des dieux et du monde passe de la génération de Cronos à celle de Zeus, il faut un conflit généralisé, une guerre totale qui mette hors jeu les titans. Comment cette guerre s'est déclenchée ? Dans quelles circonstances ? Cela n'intéresse pas du tout le poète Hésiode. Ce qu'il veut, c'est montrer qu'on a là un changement total d'époque, d'état du monde. Rien ne se répétera plus. Avec Zeus, le monde sera nouveau. De telles révolutions dans la mythologie grecque, mais aussi au Proche-Orient, en Mésopotamie ou dans la Bible, se faisaient par l'arrivée d'immenses catastrophes, un déluge ou une guerre totale. Le combat de la génération de Zeus contre les titans reprend ce modèle, une catastrophe cosmique universelle sous la forme d'une guerre acharnée. La guerre sera affreuse et longue.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Oh,
Pierre Judet de la Combe évoque le dieu des dieux, Zeus.
Nom de Zeus !
Comme la guerre de Troie, la guerre entre les dieux dure 10 ans. Pendant 10 années, les deux armées piétinent. Elles s'affrontent depuis deux montagnes, les partisans de Zeus sur l'Olympe, ceux de Cronos au sud sur le mont Othrys, moins élevé. Aucun camp ne gagne, ils sont à égalité.
Ils combattaient depuis longtemps, dans des souffrances à torturer le cœur. Les dieux titans et tous ceux qui sont nés de Cronos, face à face, en de puissantes luttes. Les uns depuis le sommet de l'Othrys, les titans magnifiques, les autres depuis l'Olympe. Les dieux qui donnent les bienfaits que mit au monde Rhea aux beaux cheveux après avoir couché avec Cronos. La querelle pénible n'avait ni dénouement ni fin pour aucun des deux camps. L'issue du combat était tendue, en équilibre.
Comme dans les journées de grande bataille de l'Iliade, à un moment donné, en général vers midi, l'équilibre est brisé. Les trois dieux aux 100 bras que Zeus a su gagner à sa cause interviennent et font massivement pression sur la ligne des partisans de Cronos. Les troupes de Cronos sur la défensive se resserrent et Zeus, comme les grands guerriers homériques, peut lancer l'action héroïque décisive qui va enfoncer le front ennemi. Il déchaîne la foudre que lui ont donnée les cyclopes. Foudroyé, le monde brûle, la nature bouillonne, les titans sont aveuglés.
Alors Zeus ne retint plus sa rage. En lui, d'un coup, sa poitrine en fut pleine. Et au dehors, il montra toute sa violence. À la fois depuis le ciel et depuis l'Olympe, il s'avançait, foudroyant sans cesse. Les éclairs, avec le tonnerre et la foudre, volaient depuis son bras compact. Il faisait tournoyer une flamme sacrée, coup sur coup. Tout autour, la terre qui apporte la vie était emplie de fracas, incendiée, et la forêt immense, tout autour, poussait de grands cris. La terre bouillonnait toute, et les courants de l'océan, et la mer qu'on ne moissonne pas. Une haleine chaude enveloppait les titans sur la terre. La flamme atteignait l'azur divin, immense. Malgré leur force, les titans n'avaient plus leurs yeux à cause de l'éclat lumineux de la foudre et de l'éclair. Un incendie prodigieux tenait l'abîme.
Les trois dieux aux 100 bras apportent la toute dernière touche. Ils bombardent les titans désemparés avec 300 pierres, écrasés. Les titans sont vaincus, repoussés sous terre, prisonniers. Ils sont relégués hors du monde.
Et le combat pencha d'un côté. Avant, s'attaquant les uns les autres, ils se combattaient avec constance en de puissantes luttes. Mais au premier rang, trois dieux éveillèrent le combat aigu. Cotos, Briaré et Gigès, inassouvis de guerre. Depuis leurs bras compacts, ils envoyèrent 300 pierres, l'une pressant l'autre. Elles couvrirent d'ombre les titans. Eux, ils les envoyèrent sous la terre aux larges routes. Et ils lièrent les titans dans des liens douloureux parce que leurs bras les avaient vaincus, malgré tout leur courage, aussi loin en bas sous la terre que le ciel est loin de la terre.
Les titans sont hors course, enfermés dans un lieu à la fois immense, obscur et clos, un grand vide moisi, le Tartare brumeux. Ils sont confinés dans les bas-fonds du monde, sans issue. Poséidon a placé à l'entrée du Tartare des portes de bronze, bien fermées. On pourrait croire qu'avec cette victoire écrasante de Zeus et de ses frères et sœurs, tout est fini, réglé, que l'ordre peut enfin régner sur le monde. Mais non. Zeus doit encore affronter un adversaire, Typhée ou Typhon, selon la manière dont on le nomme. Ce dieu, l'ultime adversaire de Zeus, est un monstre abominable. Il concentre toute la sauvagerie possible. Il est du désordre pur, sans forme, un chaos. Il a 100 têtes de serpent avec des langues noires. Ses yeux lancent des flammes. Typhée est aussi un dieu sonore, un orchestre dissonant. De ses têtes de serpent sortent des voix infinies et incongrues. Elles peuvent imiter tous les êtres vivants de toutes sortes. Elles peuvent chercher à se faire comprendre ou renoncer bruyamment à toute communication. Ces voix sont du bruit, un chaos de sons qui déploie tout ce que peuvent produire des voix, qu'elles soient divines, humaines ou animales, graves ou suraiguës, articulées ou non. Typhée sait tout imiter et n'a aucune identité à lui. Il est d'autant plus terrifiant.
Et dans chacune des têtes horribles, il y avait des voix qui lançaient des sons de toutes sortes, sans règles. Parfois, elles faisaient bruit comme pour être comprises des dieux, Parfois, c'était la voix du taureau rugissant, intenable dans sa rage, superbe. Parfois encore, du lion dont le cœur ne respecte rien. Parfois encore, des imitations de chiots, merveilles à entendre. Parfois encore, il sifflait et, en réponse, les grandes montagnes résonnaient.
Ce Typhée Typhon est un alien polyphonique, toujours changeant. Passant des grognements de lions ou des beuglements de taureaux aux petits rires ridicules des petits chiens, comme le Joker, hilar et méchant, du très beau film de Todd Phillips. Il est un duplicant, sonore infini, indiscernable, une figure radicale de l'altérité, comme les êtres indécis de Blade Runner. D'où vient ce monstre ? Typhée est un enfant de la déesse Terre qui s'est unie d'amour au dieu Tartare. En effet, Tartare n'est pas seulement le nom d'une région du monde, de sa zone la plus obscure, horrible, qui s'étend sous la Terre. Il est aussi un dieu, en bonne et due forme. Il procrée. Avant son combat avec Zeus, Typhée, fils de Tartare et de Terre, a eu le temps d'être le père de plusieurs monstres, de créatures plus petites qui peuplent le monde et qui, comme lui, ont de graves problèmes d'identité. La chimère, cette toute jeune chèvre d'un an qui souffle le feu et qui est aussi à la fois lion et serpent. L'hydre aux 100 têtes du serpent à l'erne. Le chien Cerbère avec ses 50 têtes qui aboie de sa voix de bronze à l'entrée des enfers. Tous ces êtres difformes, menaçants, descendent de terre par Typhée. Ce sont ses petits-enfants. Zeus, qui est aussi un petit-fils de terre, n'avait pas fini son travail de conquérant. Il a réglé leur sort aux titans, ses enfants de ciel, ce dieu étoilé et lumineux. Il lui fallait maintenant se tourner vers un descendant de la partie la plus sombre, la plus basse du monde, le Tartare, et lui faire également entendre raison. Le pouvoir de Zeus sera ainsi complet, depuis la voûte étoilée et lumineuse du ciel jusqu'au tréfonds fangeux du monde, le Tartare. La déesse Terre fait le lien entre ces deux pôles contraires, puisqu'elle a engendré le ciel, pour s'unir à lui, et qu'elle couche aussi avec le Tartare. Terre, Gaïa, est la fécondité même. Elle engendre qui elle veut, souverainement. Elle est la force infatigable qui fait naître tous les êtres composant le monde, et cette force infinie a des aspects contradictoires, lumineuses et sombres. Typhée, le dieu terrien, issu du Tartare, le serpent aux 100 bouches, a sa place dans le monde. La guerre contre Zeus la lui donnera.
Memorize the bathwater, memorize the air. There'll come a time I wanna know I was here. Names on the door frames, inches and ages. Handprints in concrete at the softest stages. I don't know why I don't. Towels into water. Get it down to nothing. Everything that matters. Fever flashes, eyelashes in traffic patterns. Humidity, history, chemistry and panic. Swimsuits in the windows of electric minivans. I don't know. You forgot it. Crazy the things we let go. It finally hits me. A mile's drive. The sky is leaking. My windshield's cracked. I'm feeling sacred. My soul is stripped. The radio's painful. The words are clipped. The grief it gets me. When we're goodbye. Car is creeping, I think it's time. I'm pulling over until it heals. I'm on a shoulder of lemon fields. with nothing to do. Can't turn around and I can't follow you. Your coat's in my car, I guess you forgot it. Crazy the things we let go. It finally hits me, I'm miles dry. The sky is leaking, my windshield's crying. I'm feeling sacred, my soul is stripped. Radio's painful, the words are clipped. The grief it gets me, the weird goodbyes. My car is creeping, I think it's dying. I'm pulling over until it heals. I'm on a shoulder of lemon fields.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
La lutte de Typhée avec Zeus est effrayante, mais rapide. Elle n'oppose que ses deux dieux, sans les autres. C'est un duel, comme dans les westerns. Typhée tire le premier. Il est à deux doigts de gagner, mais le regard de Zeus est acéré. Il voit le coup.
Un exploit sans issue se serait accompli ce jour-là. Typhée aurait régné sur les mortels et sur les immortels si le regard aigu de Zeus, le père des dieux et des hommes, ne l'avait repéré.
Zeus réplique en envoyant ses foudres. Comme dans la guerre avec les titans, une tempête cosmique embrase le monde. C'est feu contre feu, feu céleste de la foudre contre feu terrestre de Typhée.
D'un coup sec, Zeus tonna avec force. Autour, la terre retentit de manière effrayante, et le large ciel au-dessus, et la mer et les flots de l'océan, et le Tartare sous la terre. Sous les pas immortels du dieu, le grand Olympe était agité quand Zeus, le Seigneur, s'élançait. En réponse, la terre gémissait. À cause des deux dieux, un incendie tenait la mer couleur de violette. Il venait du tonnerre et de la foudre, du feu sorti de ce monstre, de ses typhons brûlants et de ses vents et de l'éclair qui flamboie. La terre bouillonnait toute, et le ciel et la mer. Sur les rivages, tout autour, de tous les côtés, de grandes vagues étaient en furie sous l'assaut des immortels. Une secousse inépuisable s'était levée. Hadès, qui, sous terre, règne sur les décédés, tremblait, ainsi qu'au fond du Tartare, les titans qui entourent Cronos, à cause du bruit inépuisable et de l'horrible hostilité.
Finalement, Zeus foudroie Typhée directement. Typhée s'effondre, provoque en tombant un immense incendie. Sous lui, là où il est tombé, la terre se met à fondre. Zeus envoie Typhée chez son père, qui est le Tartare. Il y rejoint les autres dieux, que Zeus a vaincus. Foudroyé, enfermé, Typhée continue à être nuisible. C'est sa fonction désormais. C'est de lui que viennent les vents incontrôlables, imprévisibles, qui d'un seul coup, en bourrasque mauvaise, dispersent les bateaux sur la mer, ou qui sur terre anéantissent les travaux des champs, les transforment en poussière. Les hommes, face à de tels vents, face à ces typhons, ne peuvent que subir. Typhon, Typhée, l'enfant de terre et de Tartare, n'est pas complètement éliminé. Il a sa place dans le monde. Eschyle, le poète tragique, situera dans sa pièce Prométhée enchaîné, le corps vaincu mais toujours plein de feu de Typhée, en Sicile, sous l'Etna. Le feu du volcan vient de lui. Il alimente les forges du dieu Héphaïstos. Mais il sera ravageur.
La foudre de Zeus l'a figé net et mis en pièces ses prétentions sublimes. Le coup a porté au cœur, sa force a volé en poussière de feu, chassée par le tonnerre. Et maintenant, il est couché, corps inutile, insensé, près d'un bras de la mer. L'Etna le presse sous ses racines. Assis en haut des crêtes, Héphaïstos frappe des blocs de fer rougis. Et de là, un jour, éclateront des fleuves de feu, déchiquetant avec leurs dents féroces les champs unis de la Sicile au blé superbe. C'est la colère qui, en bouillonnant, montera de Typhée, une grêle qui souffle le feu, affamée avec ses traits brûlants. Et pourtant, la foudre de Zeus l'avait réduit en charbon.
Zeus, qui a vaincu les puissances oppressives, désordonnées du ciel et du Tartare, peut enfin régner avec les autres dieux et déesses de sa génération. Il peut siéger magnifique sur l'Olympe, dans la grande salle où se rassemblent tous les dieux lors de fêtes joyeuses, où les muses, avec une voix belle comme le lys, chantent pour son plaisir tous ses exploits. Il peut siéger aussi sur une cime isolée, la plus extrême de l'Olympe, quand il réfléchit en solitaire et prend ses décisions irrévocables. Quand il a pris une décision, il le signale en hochant la tête. La secousse qu'il provoque alors est immense, tout bouge. La montagne tremble, tant il est puissant.
Marcel de Tienne.
Zeus, et lorsqu'il a réussi ses grandes guerres et conquêtes, et qu'enfin il pense que sa souveraineté est bien assise, et qu'il a distribué tous les apanages entre les dieux, il y a un moment, il y a une sorte de pause, c'est comme tout retombe un peu après cet effort gigantesque, et il y a un manque. Et il s'interroge, que nous manque-t-il ? Eh bien, nous manque une parole de louange, un chant qui viendrait glorifier, dire et redire l'exploit des dieux. Et alors, il va créer les muses. Et les muses vont être celles qui vont, justement, chanter la gloire des dieux. Alors, donc, les muses ne vont pas créer le monde à travers des mots. Elles vont être comme les aèdes qui chantent les exploits des hommes. Donc, vraiment, là, entre les dieux et les hommes, les affinités sont extrêmes, et les homologies très constantes.
Comment Zeus fera-t-il pour ne pas répéter les erreurs de Cronos et de Ciel ? Pour instaurer un gouvernement du monde qui dure ? Pour ne pas se faire détrôner par un enfant plus malin et plus fort que lui. Comment ce dieu, qui a combattu des désordres, des monstres affolants, fera-t-il pour que son monde bien réglé, normé, ne soit pas immobile, mais respire, soit ouvert au temps, à la nouveauté ? Bref, comment Zeus va-t-il faire de la politique ? Comment va-t-il associer ordre et désordre et nous permettre de vivre, nous les mortels ? Vous le saurez, si vous le voulez. En écoutant le prochain épisode, Zeus, le patron.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tessay. Les textes ont été lus par Léa d'Auvergne et Benoît Marchand. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Sébastien Royer et le mixage par Cédric Châtelus. La semaine prochaine, deuxième épisode consacré à Zeus, Zeus le patron. Bonne journée sur France Inter.